C'est le 259013e bulletin d'information de la rédaction féministe et féminine de Radio Pleine Lune sur Radio Zone 101.4.
93.8 MHz.
Nos nouvelles, donc, les titres tout d'abord. Petite manifestation de femmes à Berne contre l'apartheid. À Genève, le fiasco centre culturel un peu alternatif va fermer. Un enfant à la carte, grâce à la bouffe, vous pouvez choisir votre futur bébé, garçon ou fille. Et la radioactivité, une joie pour les vendeurs de cosmétiques. Petite manifestation de femmes à Berne contre l'apartheid. Le 17 juin dernier, une trentaine de femmes bernoises se sont rendues dans les quatre grandes banques, aux différents guichets de ces quatre banques. Il s'agit de l'UBS, de la SBS, du Crédit Suisse et de la Banque Populaire Suisse. Cette trentaine de femmes a accompagné deux femmes qui se sont rendues donc à ces guichets pour demander la fermeture de leurs comptes afin de protester contre les affaires sales, disent-elles, que les banques suisses font avec leur régime fasciste et raciste d'Afrique du Sud. Bien sûr, ces messieurs des banques se sont un peu énervés, ils auraient même menacé d'appeler les flics, mais finalement tout s'est plus ou moins bien passé dans l'indifférence de certains clients et dans le contentement de certains employés. Les femmes ont collé différentes pancartes dans ces banques qui disaient, entre autres, « Chaque franc que vous avez déposé dans ces banques suisses peut devenir une balle qui peut tuer un de nous noirs ». Un autre slogan, « Les banques suisses font partie du dernier bastion des racistes. Depuis 1980, les prêts accordés à l'Afrique du Sud par ces banques ont quadruplé ». À Genève, fiasco pour le fiasco. La ville a décidé de fermer ce lieu culturel, le fiasco. Le centre culturel fiasco est donc condamné à mort, ou presque, 4 mois après son ouverture. Assassiné par son succès populaire et par des dédales administratifs mal compris. L'association État d'urgence, responsable du lieu, a reçu de la part de M. Claude Egui, conseiller administratif, l'injonction de, je cite, « cesser immédiatement toute manifestation ouverte au public » et cela afin d'apaiser la colère du voisinage. M. Egui constate que certaines autorisations nécessaires n'ont pas été sollicitées avant l'ouverture de cet espace culturel. D'autre part, de nombreuses plaintes sont arrivées sur le bureau de M. Egui, une succession de pressions qui l'ont motivé à fermer au public ce centre dont il est le parrain. Seuls les ateliers non bruyants pourront être maintenus au fiasco. Du côté des responsables d'état d'urgence, c'est la consternation. Des sommes importantes ainsi que la main-d'œuvre bénévole ont été engagées dans l'opération. On constate amèrement que les diverses autorisations sont en cours d'être accordées. Si l'on avait dû attendre de les obtenir pour ouvrir, il aurait fallu un an de patience, dit un des responsables. Une perte de temps inconcevable pour l'association. sondée lundi après-midi, quelques heures avant une assemblée générale extraordinaire, de nombreux membres s'opposent à une fermeture tant qu'il n'y aura pas de solution de rechange immédiate et acceptable. D'autant plus que toutes les activités bruyantes, telles que concerts ou discos, ont été bannies du fiasco. Seuls des ateliers d'artisans, du cinéma, du théâtre et des expositions ont encore lieu. Voilà donc une expérience qui se termine en queue de poisson. C'est presque un avortement. Monsieur Egui doit se frotter les mains. « Vous voyez, doit-il dire, on ne peut pas leur faire confiance à ces jeunes. » Des plaintes du voisinage font donc fermer une maison. Beaucoup de plaintes, 180 pour être exact. Et cela dès les premiers jours de vie du fiasco. Et on ne dira pas après ça qu'il n'y avait pas un petit peu de préjugés à la base et que de toute façon, ses voisins avaient décidé de se plaindre car ils ne supportaient pas du tout ces jeunes aux têtes, pas tout à fait comme la leur. Gageons que ses voisins ne se sont sûrement pas plaints de la fête fédérale des costumes. 180 cons contre plusieurs centaines de jeunes et moins jeunes qui ont apprécié le fiasco, ses films, ses concerts, ses lieux de rencontre. Voilà une égalité bien inégale. Un enfant à la carte. Comment choisir le sexe de son bébé? Il semble que cela devienne indispensable. Voilà des conseils indispensables avant de partir pour l'été, car qui sait, c'est peut-être cet été que vous déciderez de faire votre petit premier ou votre petit vingtième. Eh bien, une alimentation peut permettre de choisir le sexe de son enfant. C'était l'un des thèmes des 27e journées nationales diététiques qui se sont tenues à Marseille au courant du mois de juin. La préoccupation semble vieille comme le monde, puisque dès l'Antiquité, des solutions assez scabreuses que surprenantes avaient été préconisées. On pensait par exemple qu'une ligature du testicule droit était réputée favoriser la conception d'un garçon, tandis que la même opération sur le testicule gauche avait les meilleures chances d'aider à la naissance d'une fille. De même que se coucher du côté gauche faisait naître une fille, tandis que l'atteinte de l'orgasme féminin était là, à coup sûr, un signe qu'un garçon était en route. C'est pas mal, hein? La gauche, c'est toujours les femmes, l'orgasme, c'est les garçons. Même certains livres ésotériques donnent des conseils et des secrets. Par exemple, si après avoir réduit en poudre la matrice et les entrailles d'une femelle de lapin mêlée à du vin, un couple prenait soin d'en absorber un verre avant le rapport sexuel, certainement il aurait un garçon. Par contre, s'il désirait une fille, il fallait manger les foies et les testicules d'un jeune porc mêlé à du vin clairet. Ces conseils étaient-ils autre chose que les premiers essais de diététique en matière de choix de sexe d'un bébé à naître ? Sans remonter aux époques obscurantistes, voici une vingtaine d'années, circulaient encore des recettes de bonnes femmes prétendant qu'une injection vaginale de bicarbonate de soude avant le rapport sexuel avait les meilleures chances de favoriser la naissance d'un garçon. Mais le choix du sexe d'un enfant à naître reste une préoccupation actuelle et c'est ce qui a été discuté lors des 27e journées nationales de diététique qui ont eu lieu à Marseille. Il y avait donc une table ronde sur le thème « Influence de l'alimentation sur le choix du sexe ». À l'heure où l'on a la possibilité de programmer la fécondation, la naissance et le nombre des enfants, les couples en viennent à exiger l'enfant de leur choix. Est-ce que la science peut leur apporter une réponse? Les avis sont très partagés. Le père de la sélection préconceptionnelle par la diététique, le professeur Joseph Stolkowski de l'université de Pierre-Marie Curie à Paris, était à présent à Marseille et il a fait état d'une expérience qui remonte à 1948, qui a été conduite avant sur des grenouilles, ensuite sur des vaches et puis finalement sur des humains et qui montre que l'alimentation de la femme est très importante pour choisir le sexe de l'enfant. Une autre expérience a été faite aussi au Canada et le professeur Stolkowski se flatte de résultats positifs à 82%. et cela sur 553 naissances. L'influence de la nutrition minérale sur la formation du sexe a permis la réalisation d'une méthode naturelle de sélection préconceptionnelle du sexe, affirme-t-il. Il s'agit de fournir une alimentation permettant de faire varier le rapport moyen sodium, potassium, calcium, magnésium. S'il est élevé, il favorise la naissance d'un garçon. S'il est bas, celle d'une fille. Les chiffres recensés dans le service du professeur Jean Choucroun à Puteaux et par le professeur Papa à Port-Royal donnent des pourcentages respectifs de 85% et 78% de réussite. Si vous voulez donc un garçon, vous devez manger un régime riche en sodium et en potassium, c'est-à-dire riche en jus de fruits et en fruits secs. Tandis que si vous voulez une fille, alors il faut un régime riche en calcium et en magnésium grâce au laitage, pas de sel du tout, pas de matière grasse et pas de produits sucrés. Ce discours triomphaliste a cependant été largement tempéré par des interventions d'autres médecins. Pour ceux-ci, le régime préconisé est pratiquement impossible à suivre ailleurs qu'en milieu hospitalier, tant il est contraignant. Toute prise de médicaments, l'usage de la pilule ou d'un stérilet peuvent le fausser. Les méthodes de calcul des pourcentages minéraux de l'alimentation sont tellement variables et complexes que beaucoup de patientes font des écarts de régime ou abandonnent en cours de route. Les résultats affichés ne tiennent pas compte du grand nombre d'abandons, affirme un des médecins. De toute façon, pour certains médecins, la majorité de ces méthodes sont discutées et discutables. Et un des professeurs, le professeur Ruff, se réjouit que subsiste un pourcentage d'échecs assez grand, car, dit-il, un choix à coup sûr ne risquerait-il pas de modifier le sexe ratio et l'équilibre naturel, sans parler des pays ou des civilisations où la fille est considérée comme quantité négligeable quand elle n'est pas une calamité discrètement mélangée à sa naissance à la nourriture destinée à engraisser les porcs. Fin de citation. De la crème de beauté aux nuages de Tchernobyl, la radioactivité à nos trousses. Aujourd'hui, grâce à nos promoteurs du nucléaire, nous avons la joie de manger des salades radioactives, de nous bronzer au rayonnement, plaisir un peu mitigé assurément, car on ne peut pas vraiment dire que nous avons choisi. Mais dans les années 20, la radioactivité a fait le bonheur des fabricants, non, pas du nucléaire, pas d'électricité, non, le bonheur des fabricants de cosmétiques. Et oui, la beauté n'a pas de prix. Et on le sait. Et c'est ainsi qu'on peut relire des vieilles publicités des années 20 qui vantaient, par exemple, une crème scientifique curative et embellissante qui s'appelle Thorradia, à base de thorium et de radium, selon la formule du docteur Alfred Curie. Cette recommandation est donc, n'émane pas d'un professeur vantant les bienfaits de Tchernobyl, mais d'une publicité parue en 1923 pour vanter les mérites des comprimés radioactifs Radio-Vie. Dans le climat d'euphorie scientiste de l'entre-deux-guerres, propice au développement de tout fantasme, l'exploitation publicitaire de la fascination exercée par la radioactivité, phénomène infiniment mystérieux, faisait recette. C'est l'époque d'une étonnante prolifération de produits s'appropriant les vertus quasi-magiques d'une radioactivité perçue comme le panacée. Tous les moyens sont bons pour se soumettre aux effets bénéfiques des rayonnements. Compresses radioactives, radioéminateurs permettant la contamination de l'eau, inhalateurs de radon. Et même les stations thermales découvrent les qualités radioactives de leurs eaux. Mais le terrain le plus propice à l'émergence de cette fabulation d'inspiration scientifique est bien sûr celui des produits de beauté. On prête à la radioactivité des effets purement imaginaires. Je cite « Aussitôt votre massage terminé, le prodige de la radioactivité commence à se manifester. Une exquise impression de bien-être parcourt votre visage à fleur de peau. La régénération des tissus se révèle par une sorte de joie organique. La femme qui pratique journellement le massage radioactif oubliera vite ou ne sera jamais ce que est le supplice d'avoir des rides. » C'est la publicité qu'on trouve dans la brochure du produit Thorradia en 1933. Car à l'époque, pour toute femme en quête d'une beauté éternelle, la radioactivité accomplit apparemment du moins des miracles. Je cite une autre publicité. « Reste l'aide qui veut. Entre l'empirisme inutile, parfois même dangereux, et les bienfaits scientifiques de la radioactivité, votre choix hésitera-t-il ? Et vous pouvez donc choisir des crèmes radioactives au service de la beauté, avec les crèmes Perrette, les crèmes Alpha Radium à base de radium. Il y a une crème qui rajeunit les tissus et active la multiplication des cellules et qui de cette façon remplace régulièrement les cellules fatiguées. Et encore mieux, les ceintures en caoutchouc radioactif. Vous serez belle éternellement et toujours jeune, madame, en portant une demi-heure par jour les appareils de beauté en caoutchouc radioactif du docteur Monteil. Il y en a pour la tête, pour le nez, pour le menton, pour les bas-joues, pour les seins, pour les fesses, pour les pieds, pour le cou, pour tout. Ces étranges affirmations n'étaient pourtant pas exclusivement l'apanage de charlatans sans scrupules. Il faut savoir que la connaissance des effets destructeurs de la radioactivité à haute dose n'entamait pas la foi de nombreux scientifiques dans les vertus curatives, bien que non démontrées de l'usage de doses plus faibles. À tel point qu'on a même essayé d'utiliser la radioactivité pour des projets un peu douteux, tels que des injections de radium indiquées pour soigner la grippe. Pourquoi s'inquiéter de ces prescriptions effectuées en toute méconnaissance de cause, puisque la formulaire de pharmacie de M. Gerbello en 1920 nous assure que, je cite, « les sels de radium ne sont ni toxiques ni dangereux en injection ». Fin de citation. Ainsi, les produits de beauté radioactifs recevaient-ils la caution de la science officielle ? Mis au point par des médecins, ils étaient le plus souvent vendus en pharmacie. Et l'Institut Curie lui-même en contrôlait parfois le dosage en éléments radioactifs, malgré les réserves exprimées par Madame Curie, qui protestait contre l'utilisation de son nom à des fins commerciales et regrettait l'absence d'un contrôle médical sérieux sur leur utilisation. On pourrait encore trouver un beau slogan, belle d'un jour, radioactive toujours. Dans le même genre d'idées, savez-vous qu'à la même époque, on proposait des cures amaigrissantes à base d'œufs de ténia, c'est-à-dire de vers solitaires. Pour être belle, il faut vraiment souffrir, beaucoup, beaucoup souffrir.
Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, paroles de femmes, musique de femmes, mais nous ne sommes pas sectaires, quoi qu'on en dise, les animaux ont droit aussi à la parole, ou plutôt au barrissement, puisqu'il va s'agir d'éléphants. Depuis longtemps, les zoologues sont intrigués par la complexité de la vie communautaire des grands troupeaux d'éléphants, de toute évidence extrêmement organisés et dont les individus réagissent à l'unisson par une sorte d'entente occulte malgré les énormes distances qui parfois séparent les membres du groupe. Le cri de ce pachyderme, son barrissement, résonne à nos oreilles comme un tonitruant coup de trompette. En réalité, dans la nature, cette voix ne se propage pas suffisamment et ses effets ne sont pas assez nuancés pour rendre compte de la vie sociale de ces animaux qui s'ordonnent de façon remarquable à travers de très vastes espaces. Leur sens de l'odorat, pourtant très développé, n'explique pas tout. Or, on vient de découvrir que la portion la plus riche de leur langage est hors d'atteinte de notre perception, car elle est faite d'infrasons, autrement dit de vibrations sonores de faible fréquence, inférieures à 20 Hz, en dessous de notre seuil d'audition. Donc les fréquences acoustiques humaines s'étendent de 20 à 20 000 Hz. L'organe émetteur de l'éléphant est un point vibrant situé dans le front, à l'endroit où les fosses nasales se raccordent au crâne. On ne connaissait pas jusqu'ici d'animal terrestre capable de produire les vibrations de cet ordre, bien qu'on sache depuis longtemps que certains mammifères, la chauve-souris et la musaraigne par exemple, pratiquent l'écholocation par ultrasons, c'est-à-dire à une fréquence supérieure à 20 000 Hz. Auteur de cette découverte inattendue sur l'éléphant, Catherine Payne, une zoologue de Cornell University aux États-Unis, mondialement connue pour ses travaux sur le langage des baleines, dont certaines émettent également des ondes infrasonores intenses d'une très longue portée sous-marine. Catherine Payne a la révélation de cette voix secrète de l'éléphant un jour aux eaux de Portland, dans l'Oregon. Alors qu'elle observe une famille de ces animaux dans leur enclos, elle ressent quelque chose dans l'air qui ressemble au bourdon de l'orgue dans son registre le plus grave, ou encore à une onde de choc très faible issue d'un coup de tonnerre extrêmement lointain. Une impression à la limite du réel et de l'illusion auditive. La zoologue se demande si son étrange sensation n'a pas à voir avec la présence des éléphants. Pendant des jours, elle fait le siège de leur enclos. Et petit à petit, elle remarque qu'un léger frémissement d'une bosse frontale chez l'un ou l'autre des occupants déclenche certains mouvements de groupe. Tout se passe comme si les éléphants possèdent là une sorte d'antenne grâce à laquelle ils s'échangent des messages entendus et compris d'eux seuls. Les tremblements de ce point du crâne peuvent aussi accompagner leur langage courant lorsqu'ils barrissent ou qu'ils grognent. Mais il semble que ces bruits audibles à tous s'adressent avant tout aux étrangers plutôt qu'aux membres de l'espèce. En tout cas, une partie des moyens de communication paraît bien être codée, secrète, à l'usage exclusif et intime des congénères. De retour à son laboratoire universitaire, Madame Payne rassemble un équipement de détection acoustique ultrasensible le plus perfectionné qui soit. Ainsi armée, elle reprend avec les membres de son équipe sa position de guet devant le parc aux éléphants aux eaux de Portland. Et comme elle l'avait pressenti, les appareils enregistrent un flot d'infrasons chaque fois que le front du pachyderme se met à vibrer. Ces infrasons comportent d'ailleurs une harmonie qui est perceptible par l'oreille humaine sous forme de ce curieux grondement caverneux et persistant que les naturalistes ont longtemps pris pour des borborygmes. L'erreur était logique. L'éléphant peut très bien avoir une digestion bruyante vu la quantité d'aliments qu'il enfourne dans son estomac. Mais on s'est rendu compte que l'animal est capable de contrôler ses prétendus bruits abdominaux et que ceux-ci n'ont rien à voir avec l'activité digestive. On sait maintenant qu'ils sont liés à un système d'avertissement sonore. Mais cette constatation, pour passionnante qu'elle soit, ne fait qu'ouvrir la porte à une foule d'autres questions. Qu'exprime exactement ce langage animal très spécial? Quelle est sa fonction dans la vie collective des éléphants? Catherine Payne est allée étudier les éléphants d'Afrique dans une réserve du Kenya et la lignée d'Asie aussi, dans son milieu naturel en Inde. Les appareils d'enregistrement infrasons ont révélé des situations étonnantes. Lorsqu'un bébé éléphant se met à crier, les femelles adultes du groupe viennent l'entourer et lui chanter une berceuse dans cette musique à basse fréquence. Quand les vieux de la bande rameutent un jeune égaré pour le reconduire vers sa mère, ils utilisent aussi des formes de ce langage mystérieux. Les infrasons servent très probablement aussi à assurer la rencontre des mâles et des femelles pour la reproduction. Les chercheurs se sont en effet longtemps demandé comment les deux sexes parvenaient à se retrouver sous des distances parfois énormes pendant le temps très court du rut, à peine 2 jours par mois. Ces vibrations ont une portée bien plus grande que celles ayant des fréquences élevées, lesquelles sont en particulièrement vite absorbées par les arbres d'une forêt. Ce système vivant de télécommunication est un atout essentiel pour une société animale organisée en groupes solidaires, mais différents, très disséminés sur le plan géographique. Voilà qui expliquerait ce phénomène étonnant et jusqu'ici incompréhensible, relevé aussi bien en Asie qu'en Afrique. Des troupeaux importants, très éloignés les uns des autres, manifestent au même moment des actions identiques qui semblent parfaitement coordonnées, comme s'ils répondaient à un commandement unique. Difficile de croire qu'ils sont mus indépendamment les uns des autres par une même force extérieure. On peut penser plutôt qu'ils agissent de concert grâce à leur téléphone infrasonore. Ainsi, tous les sujets d'une tribu en déplacement, dispersés sur des kilomètres carrés, s'arrêtent d'un seul tenant parce qu'un des petits a besoin de faire la sieste et attendent sur place son réveil avant de reprendre leur migration. Qu'il doit faire bon vivre chez les éléphants. Longue vie aux éléphants. C'était Radio Éléphant sur 93.8 MHz. Radio Pleine Lune, on vous trompe, car vous n'êtes pas en train d'entendre des éléphants, mais des baleines. On a eu un petit peu de peine à trouver des barrissements d'éléphants. Alors voilà, encore des baleines. Après Radio Éléphant, Radio Mente Religieuse. Enfin réhabilité. La fin d'un mythe. Après avoir observé une quarantaine de copulations de mantes religieuses chinoises Tenodera aridifolia, deux chercheurs n'ont pas enregistré un seul cas de cannibalisme. Davis de l'Université de Californie et Lisk en Allemagne ont constaté que la cour préalable et l'acte entre mâle et femelle se sont déroulés de façon tout à fait normale et que chacun s'en est allé de son côté. Dans un seul cas, la femelle a bien consommé son partenaire, mais sans copulation et pour la bonne raison que n'ayant pas mangé depuis plusieurs jours, elle était affamée et avait donc l'esprit à autre chose qu'à la galanterie. Il est d'ailleurs curieux que le mythe n'ait pas été vérifié auparavant avec plus de soin. Il n'existait au sujet du prétendu cannibalisme de l'insecte que 2 rapports, l'un du XVIIe siècle allemand et l'autre du XIXe américain. C'est d'eux qu'est partie la légende. En réalité, les observateurs qui avaient capturé les mantes n'avaient pas pris soin de les nourrir et comme la femelle est beaucoup plus grosse que le mâle, elle a d'abord satisfait sa faim. On pensait par ailleurs que le monstre était sourd. Point. Il a une oreille, une seule, située sur son thorax, qui lui permet de détecter des sons, sans doute pour mieux repérer sa proie et pour détecter les chauves-souris prédatrices qui se dirigent grâce à un système sonar en émettant des ultrasons dont elles perçoivent les échos. Jusqu'à présent, tous les animaux, y compris les insectes, chez qui l'on a identifié les organes auditifs, en ont 2, symétriques, qui permettent la localisation d'une source sonore par stéréophonie. La mante est le seul animal connu à ce jour qui n'a qu'une oreille, apparemment unique, mais en fait double. Les 2 chercheurs de l'université de Yale qui ont mis en évidence cette curiosité anatomique ont donc surnommé cet insecte le cyclope auditif. La mante religieuse, victime des projections anthropocentristes des scientifiques, peur de la castration, est enfin réhabilitée. Non, elle ne bouffe pas son mari après copulation, sauf si elle a faim. Dites-le haut et fort autour de vous. C'était une émission du Comité pour la réhabilitation des mantes religieuses sur 93.8 MHz.
Après les éléphants qui parlaient baleines, voici les mantes religieuses qui parlent abeilles. Sur Radio Pleine Lune, 93.8 MHz.
Thank you.